Radio Okapi. Le journal présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre journal sur Radio Okapi. Voici le titre de l'actualité de ce matin. 54 jours après l'adoption de la résolution 2773, la situation dans l'est du pays demeure critique. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix reste hors de portée, déclare Thérèse Kayikwamba Wagner, chef de la diplomatie congolaise, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU tenue hier à New York. Renforcement de la sécurité à Kinshasa. 240 nouveaux sous-commissariats de la police nationale congolaise seront construits, dont 80 dans la zone Kin-Ouest, 80 dans la zone Kin-Centre et 80 dans la zone Kin-Est. Ce projet ambitieux vise à garantir la sécurité de la population grâce à des réformes de la police. La guerre menée par le M23, soutenue par le Rwanda, ne se résoudra pas par la force. Le dialogue est essentiel, déclare Roxane de Bilderling, ambassadrice de la Belgique en RDC, à l'issue de sa visite de 3 jours à Beni. Dans une interview exclusive avec Radio Okapi, elle dévoile les stratégies diplomatiques que la Belgique et ses partenaires européens comptent déployer pour instaurer une paix durable dans la région. Elle est l'invité du journal. Restez avec nous pour plus de détails sur ce sujet. Commençons tout de suite avec notre première nouvelle. Le président Félix Tshisekedi a rencontré Foriak Simbe pour la première fois depuis que ce dernier a été nommé médiateur de l'Union africaine pour la crise dans l'est de la RDC. La rencontre s'est déroulée hier mercredi à Kinshasa. Cette visite, considérée comme une prise de contact entre les deux dirigeants, n'a donné lieu à aucun communiqué officiel. Par ailleurs, le président togolais a également été reçu hier par le président angolais João Lourenço, qui est également président de l'Union africaine. Leur rencontre qui a eu lieu à Luanda a principalement porté sur la crise dans l'est du Congo Kinshasa. Comme annoncé dans le titre, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la persistance des violences. Sur le terrain, la situation reste inchangée, les violences continuent, les tensions s'intensifient et la paix reste inaccessible. Le cri d'alarme a été lancé par Thérèse Kayikwamba Wagner, chef de la diplomatie congolaise, lors de la 9899e session du Conseil de sécurité de l'ONU tenue hier mercredi concernant la situation dans la région des Grands Lacs. En abordant la situation humanitaire, la ministre congolaise des Affaires étrangères a déclaré qu'elle avait atteint un seuil critique. Retrouvez l'essentiel de l'intervention de la ministre des Affaires étrangères de la RDC devant le Conseil de sécurité avec l'équipe Lamondo.
Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Thérèse Kayikwamba Wagner dénonce les exécutions sommaires, les enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux qui se multiplient dans les zones occupées par la rébellion appuyée par l'armée rwandaise. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais, affirme-t-elle. Selon elle, je la cite, à cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire, fin des citations. Citant le secrétaire général de l'ONU dans son rapport, elle indique qu'elle a atteint un seuil critique. Plus d'un million et demi de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps des déplacés et les centres de soins. La chef de la diplomatie congolaise rappelle également que parallèlement, les coupes budgétaires imposées au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à d'autres agences des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface, dit-elle. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. Il en va de notre devoir moral, mais aussi de la stabilité régionale, affirme-t-elle.
La nouvelle rébellion menée par l'ancien seigneur de guerre de l'Ituri, Thomas Lubanga, sous le nom de Coalition pour la Révolution Populaire, alliée au M23, n'est qu'une escroquerie politique visant à déstabiliser l'Est du pays. C'est ce qu'a déclaré hier mercredi à la presse à Bunia Yves Kawapanga, chef de la chefferie des Bahema Banyawagi et ancien chef de guerre de retour d'exil en Ouganda, où il a passé plus d'un an. Il affirme revenir au pays pour répondre à l'appel du chef de l'État et encourager tous les groupes armés à déposer les armes. Il souhaite également s'opposer à toute tentative de déstabilisation du littoral, du lac Albert et de l'Ituri en général. À l'issue de sa rencontre avec le gouverneur intérimaire de l'Ituri, Yves Kawapanga a été clair. Il rejette la démarche de Thomas Lubanga visant à semer le chaos et à ouvrir la voie aux ennemis du pays. Écoutez ses propos au micro de Ezekiel Mouzalia.
Vous êtes sans ignorer que la population des littorales passe un moment difficile de leur vie suite aux attaques de CRP de M. Thomas Lubanga. Et cette situation a causé beaucoup de préjudices et de souffrances à la population. Je suis obligé de venir prêter la main forte aux autorités. Et c'est comme ça que je me suis décidé de rentrer pour expliquer à la population qu'on ne l'air trop pas. Il n'y a personne de ma chefferie qui est ni côté elle, militaire ni côté civil. Donc personne de la chefferie de Bahema Banyawagi est engagé dans ces CRP de Thomas Lubanga. Pour moi, c'est une escroquerie politique. Moi, je pense que sincèrement, je pense que M. Thomas se trouve dans une très mauvaise position et il crée une situation pour qu'il soit reconnu comme aussi un groupe armé pour participer aux tables de négociation, s'il y en aura, pour glaner aussi sa part de gâteau. Moi, je pense que c'est sa vraie motivation. Et il est en train de tromper nos frères. Il y a des gens qui croisent à lui. Il va venir mettre la peine. Je vous l'ai dit, je vous l'ai garanti. Je ne vois pas par quelle magie, mais c'est Thomas Lubanga peut réussir.
L'actualité, c'est aussi le lancement officiel hier mercredi par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de travaux de construction de 80 sous-commissariats de la police nationale congolaise dans la zone Kin-Ouest, précisément dans les quartiers CPA Mouchi de la commune de Mongafula, Kinshasa. Selon Jacquemin Chabani, ce projet s'inscrit dans le cadre du deuxième pilier du programme gouvernemental visant à renforcer la sécurité de la population congolaise par des réformes de la PNC, en plus des 80 sous-commissariats prévus pour la zone Kin-Ouest, 80 autres seront construits dans la zone Kin-Centre et 80 dans la zone Kin-Est, portant le total de 240 sous-commissariats de police pour l'ensemble de la capitale. Écoutons Jacquemin Chabani dans cet extrait proposé par Grâce Amzati.
C'est un projet que nous avons débuté au niveau du ministère il y a quelques mois. Je crois que tous nous sommes conscients des défis sécuritaires que traverse notre pays sur toute l'étendue de la République, des défis dont notre police nationale est amenée à relever pour sécuriser, mieux sécuriser le territoire national et mieux sécuriser les biens et les personnes sur le territoire national. Je voudrais qu'ensemble, nous nous donnions l'engagement tel que l'a dit l'entrepreneur. C'est un projet d'une durée de 3 mois. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que dans 3 mois, si j'ai bien compris, il va nous livrer 80 postes de police qui rempliront toutes les conditions pour que nos agents de la police se retrouvent dans des meilleures conditions de travail. L'engagement ici, je le tiens sur la parole de l'entrepreneur et nous, en tant que gouvernement, nous allons faire notre part. Ce défi, nous le faisons, ou ce projet, il est valable sur toute l'étendue de la République. Dans le Haut-Katanga, il est déjà en cours et dans d'autres provinces aussi, nous sommes en train de l'implémenter.
Restons à Kinshasa. Selon nos sources au ministère de Finances, le budget de l'Assemblée nationale a été réduit de 30% conformément aux instructions du président de la République. Cette réduction a entraîné une léthargie des activités avec seulement 3 séances plénières tenues en plus d'un mois depuis l'ouverture de la session ordinaire de mars. Une 4e plénière est prévue ce jeudi, mais elle portera sur l'examen de la loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Lors de la plénière de vendredi dernier, le président de l'Assemblée nationale a justifié cette léthargie par le manque de fonctionnement. Le détail avec Michel Kifindangoy.
Alors que l'article 144 de la Constitution stipule que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit pendant l'état d'urgence des sièges et des guerres, depuis la chute de Bukavu et Goma, le Parlement ne reçoit plus suffisamment les moyens de sa politique, s'indigne un fonctionnaire à la Chambre basse. Préoccupation partagée par le président de l'Assemblée nationale lors de la dernière plénière, Vital Kamere.
Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Ça risque d'être une habitude alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution.
Conformément au budget 2025, l'Assemblée nationale a connu une réduction de son budget de fonctionnement à 14%, alors que la présidence de la République connaît plutôt une augmentation de ses dépenses de fonctionnement de plus de 40% par rapport à 2024. D'après nos sources au ministère des Finances, l'Assemblée nationale n'a pas un problème avec sa dotation. Elle a été réduite à 30% sur instruction du président de la République.
Dans la province de la Tchopo, le trafic ferroviaire de passagers sur la ligne Kisangani-Ubundu est suspendu depuis 5 ans en raison du manque des wagons. Cette situation résulte des difficultés logistiques rencontrées par la SNCC à Kisangani. Cependant, l'annonce de la modernisation de la voie ferrée Kisangani-Ubundu par une société sud-coréenne est accueillie comme une bouffée d'oxygène tant pour les employés que pour la population qui utilise cette ligne. Les explications avec Jacques Moukongolé.
Opérationnelle depuis 1904, la SNCC Kisangani est devenue l'ombre d'elle-même. Ses matériels et sa voie ferrée n'ont jamais été renouvelés. Faute des wagons, le trafic est suspendu depuis 2019. Les voitures déclassées sont immobilisées dans l'enceinte de cette société. Outre le manque des wagons, la SNCC fait également face à une insuffisance notoire de locomotives. De 4 machines acquises en 2016, 2 seulement sont opérationnelles. Les 2 autres, ayant été vandalisées, ont tout de même permis à un certain moment de retirer des pièces de rechange jusqu'à ce que tout s'épuise, regrette le directeur intérimaire Aloubou Chabani. Néanmoins, le trafic commercial essaye tant bien que mal de se maintenir. Aloubou Chabani souligne qu'en raison de la défectuosité de la voie ferrée, ce train marchandise n'effectue qu'une course sur Ubundu une fois toutes les 2 semaines. Sur une distance de 125 km qui sépare les 2 villes, ce train met 24 à 36 heures, soit 5 km par heure, alors qu'autrefois il pouvait effectuer un aller-retour à une vitesse de 25 km heure, soutient-il. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la même veine, à Beni, territoire au Nord Kivu, la population s'inquiète du retard dans le démarrage des travaux de construction des ponts Bumbi et Lamia. Ces 2 ponts situés sur le tronçon routier Mutuanga-Minda-Kikingi à environ 50 km à l'est de la ville de Beni sont essentiels pour relier plusieurs localités et ont une importance économique capitale pour la région. Ils ont été emportés par les eaux des pluies il y a environ 2 mois, selon la nouvelle société civile du secteur de Rwenzori. Seules les petites voitures et piétons et les motos peuvent encore traverser ce pont. Pourtant, Maleki Mulala, président de cette structure citoyenne, indique que les travaux de réhabilitation avaient été lancés en grande pompe par l'autorité provinciale. 2 mois après, aucune pelleteuse n'a encore été vue sur ces tronçons routiers. Qu'est-ce qui empêche le démarrage des travaux? Maleki Mulala tire la sonnette d'alarme. Écoutons-le au téléphone de Guylaine Kassassia.
2 mois après la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de l'axe Mutuanga-Mwenda-Kikingi, la coordination de la nouvelle société civile s'inquiète du silence des autorités compétentes parce que la cérémonie avait été présidée par l'autorité provinciale à travers son délégué. On ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Les autorités ce jour-là nous avaient communiqué que désormais les travaux commencent dès ce jour-là. Les conséquences c'est que la population de Mwenda-Kikingi qui traverse ces 2 rivières sont obligés d'escalader des murs, sont obligés de traverser dans l'eau et pendant la pluie, on est obligé de rester de l'autre côté. L'association SADI RDC avait aussi jeté un pont temporaire au niveau du pont Mbumbi qui servait jusqu'à présent les piétons, les motos, les voitures, mais les gros véhicules, c'est compliqué. Nous demandons l'implication de l'autorité provinciale pour que ces dépôts soient construits, mais aussi la réhabilitation cette route dans l'urgence.
Contacté, la société de service Viumbira a indiqué avoir symboliquement lancé le travaux, mais a priorisé la route Mbau-Kamango. Elle invite donc la population à faire preuve de patience. En RDC, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simoncel organise des dialogues multi-acteurs dans les provinces de l'Équateur, du Congo central et du Kasaï central du 14 au 15 avril. Selon son secrétaire exécutif, ces discussions visent à renforcer la validation citoyenne des 18 recommandations prioritaires qui sont au cœur de son plaidoyer pour la réforme du cadre légal et institutionnel concernant l'organisation des élections en RDC. Luc Loutala est joint depuis la ville de Mbandaka par Tati Mampoukou.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections a observé la totalité du processus électoral de la CENI 2021-2027. Elle a déployé une mission nationale autour de décembre 2023 et a rendu public son rapport final au mois d'avril 2024. À ce sujet, elle est arrivée à 36 recommandations qui ont été coulées en 18 recommandations prioritaires. En vue de consolider ces recommandations et de leur donner une vision totalement citoyenne, la Simoncel a donc lancé les dialogues multi-acteurs dans des provinces afin de permettre aux citoyens, aux leaders d'opinion des différentes provinces, de discuter, de consolider ces recommandations de manière qu'elles soient des recommandations qui soient largement partagées et qui véhiculent l'ambition et le ressenti de la population. 3 provinces pilotes ont été choisies pour héberger et recevoir ces dialogues multi-acteurs. C'est notamment la province du Congo central, la province de l'Équateur et la province du Kasaï central.
Actualité internationale.
Après avoir brièvement laissé entendre qu'Israël pourrait autoriser la fourniture d'aide humanitaire à l'enclave palestinienne, déclaration qui a suscité un véritable tollé au sein de l'extrême droite, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a fait machine arrière. Elle a expliqué que le blocage total de l'aide humanitaire en vigueur depuis le début du mois de mars était l'un des principaux outils utilisés pour faire pression sur les Hamas. Sur son compte X, il a renchéri et souligné que, contrairement à ce qui a eu lieu dans le passé, l'armée israélienne ne quittera pas les zones qui ont été dégagées et saisies depuis la reprise des combats. Elles serviront, dit-il, des zones tampons entre l'ennemi et la communauté israélienne, et cela dans toutes les situations temporaires ou permanentes.
L'invité.
Notre invitée, Roxane De Bilderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, conclut ce jeudi une visite de 3 jours à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Elle nous livre un état des lieux de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notamment la guerre menée par le M23 avec le soutien du Rwanda. Roxane De Bilderling dévoile également les stratégies diplomatiques que la Belgique et ses partenaires européens comptent déployer pour instaurer une paix durable dans cette région. Elle répond aux questions de Martial Papimoukeba.
Madame Roxane, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la portée symbolique de votre visite à Beni, une région longtemps marquée par l'insécurité et les violences armées?
Pour moi, c'était important de venir me rendre à Beni, une ville qui est située dans une région qui a beaucoup souffert et qui souffre encore beaucoup aujourd'hui. C'est aussi ici que sont venues s'installer les autorités provinciales. Et donc, je tenais à rencontrer le gouverneur et le reste de son équipe pour entendre un peu quelles étaient les priorités, les visions de l'équipe du gouverneur dans ces temps très compliqué.
La région de Beni, Boutembo et Lubero fait face à une double menace. Au nord, les ADF, au sud, les M23 soutenus par les Rwanda. Quel tir en fait la Belgique et comment ces défis influencent-ils vos priorités en matière de coopération sécuritaire et humanitaire?
Il y a évidemment d'abord la guerre d'occupation avec le M23 qui occupe une partie de la province et avec l'appui des troupes rwandaises. Et puis alors il y a la menace de divers groupes armés et en particulier des ADF. Pour ce qui concerne les ADF, il y a des actions qui sont pour l'instant entreprises, une forme de collaboration entre les troupes ougandaises et congolaises pour essayer d'y mettre fin. On sait aussi que la MONUSCO dispose ici d'une brigade d'intervention pour intervenir justement, pour protéger la population, protéger les civils, c'est son premier mandat, contre ces attaques. Et donc je crois que ce qui est important maintenant, c'est que ces différentes forces se coordonne. Maintenant, on sait que le commandant de la force de la MONUSCO vient se baser ici à Beni. Donc j'espère que ça va pouvoir permettre encore une plus grande coordination entre ces forces pour mettre fin à ces violences sur des civils.
La guerre menée par l'AFC M23 continue de ravager l'est de la RDC. Quelle piste soutenez-vous pour sa résolution?
La position de la Belgique a toujours été très claire. Elle a été une position, dans un premier temps évidemment, de condamnation de la prise d'armes et la condamnation, soutien aussi qui est apporté par le Rwanda à ces rebelles à travers vraiment une présence assez forte et un apport assez fort à leur action. Donc la Belgique a condamné, la Belgique a soutenu aussi une mobilisation pour sensibiliser, autant au sein de l'Union européenne qu'avec d'autres partenaires. Il y a eu des sanctions qui ont été imposées par l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, plein d'autres partenaires également. Mais condamner, sanctionner, ça ne suffit pas. Il faut une solution, comme vous l'avez dit. Il faut préconiser une solution. Pour nous, la solution, elle ne sera pas militaire. Il faut absolument relancer les processus qui ont vocation à résoudre cette situation par la discussion, en fait, par le dialogue. Et donc, on sait qu'il y a eu des efforts de la région. Maintenant, on a vu diverses initiatives qui ont été lancées pour remettre en route la machine, en fait, parce qu'il y avait un peu une sorte d'enlisement. On a vu l'initiative du Qatar pour remettre ensemble les présidents, pour essayer aussi d'organiser des discussions avec les rebelles du M23. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est d'appeler les initiatives qui veillent à, au plus vite, et c'est urgent, avoir un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu véritable qui soit vraiment mis en œuvre, qui soit avec un engagement sérieux des parties d'arrêter de se battre. Et puis après, il faut trouver un mécanisme d'observation de ce cessez-le-feu. C'est le plus urgent. Et après, il faut voir comment on résout la question de façon durable. Comment est-ce qu'on assure un retour de l'autorité de l'État sur tout le territoire?
Comment la Belgique perçoit-elle la situation humanitaire, sécuritaire et institutionnelle dans les zones actuellement occupées par le M23, notamment au regard du respect du droit international humanitaire et de la souveraineté de la RDC?
La souveraineté, elle n'est pas respectée, puisque pour l'instant, il y a des autorités parallèles qui ont été mises en place. Il y a une occupation de facto de toute une partie du territoire. Donc la souveraineté n'est pas respectée. Pour l'instant, c'est un des graves problèmes. La situation humanitaire, elle est catastrophique. Vous aviez énormément de personnes déplacées qui étaient dans des camps, qui ont été forcées de quitter ces camps avec des ultimatums. Hein. Certains se cachent aussi. Il y a beaucoup de répression contre les défenseurs des droits humains. Donc il y a un climat de peur qui règne dans ces zones-là, on sent qu'on ne contrôle pas la sécurité. Il y a toujours des tirs et des violences qui sont commis tous les jours, que ce soit à Goma, à Bukavu. Je crois que, voilà, occuper un territoire, c'est une chose. Gagner la confiance de la population, c'en est une autre. Et administrer un territoire aussi. Et là, je crois qu'on est vraiment bien loin du compte.
Selon vous, la Belgique et ses partenaires européens devraient-ils accentuer les pressions diplomatiques ou économiques sur le Rwanda accusé de soutenir les M23 pour favoriser un retour durable à la paix?
Je crois que ce qui est important, c'est de mettre en place, tant que possible, les conditions d'un dialogue constructif. Et donc, si à un moment ou à un autre, il y a des parties qui ne veulent pas jouer le jeu du dialogue, qui ne le font pas de façon constructive, il faut en effet augmenter la pression. C'est important.
Madame Roxane, merci.
Merci à vous.
Roxane de Bilderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, s'entretenait avec Martial Papimoukeba. C'est tout pour ce journal mis en ombre par Mimi Kindou, supervision par Peliki Pelamondo, présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. À bientôt pour une nouvelle édition sur Radio Capi.